Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de l'Amérique, édition du 21 novembre 2014 du Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Bagassi Koura et Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
À la une ce soir, passation de pouvoir ce soir à Ouagadougou entre le lieutenant-colonel Zida et le président de transition Michel Kafando. Plusieurs dignitaires de la région sont sur place.
Au Niger, troisième attaque terroriste attribuée au Moudjahou.
Attaque terroriste également au Mali, à Bourem. Seul le kamikaze est mort.
Bousculade mortelle après un service religieux hier soir au Zimbabwe.
Bras de fer au Tchad entre le gouvernement et la coalition Trop c'est trop qui veut dénoncer la mauvaise gouvernance et défendre les intérêts des Tchadiens.
Crise ukrainienne, le vice-président américain a condamné aujourd'hui ce qu'il a appelé l'agression de l'Ukraine par la Russie.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal.
Passation de pouvoir ce soir à Ouagadougou entre le lieutenant-colonel Zida, devenu Premier ministre, et le président de transition Michel Kafando. Plusieurs dignitaires de la région sont sur place. Mardi dernier, l'ex-diplomate Michel Kafando a prêté serment en tant que président intérimaire. Le lendemain, Isaac Zida, qui avait pris le pouvoir militairement il y a 3 semaines, a été nommé Premier ministre par intérim. Les deux sont chargés de mener une transition qui se terminera avec les élections l'année prochaine, prévues en novembre 2015.
Au Niger voisin, au moins 3 soldats ont été blessés dans une attaque contre un camp de l'armée à une centaine de kilomètres de Niamey. Le point avec Idriss Fall.
Les assaillants sont venus en moto hier nuit pour attaquer un camp militaire près de Wallam qui n'est qu'à 1 heure de route de la capitale. 3 soldats ont été blessés, dont 2 ont été évacués à l'hôpital de Niamey. Hassoumi Diabirou, gouverneur de la région de Tillabéri, a minimisé les faits, disant à l'AFP que les soldats ont simplement effectué des tirs de sommation sur des véhicules suspects. Wallam avait servi de base d'entraînement aux soldats nigériens déployés au Mali. Il y a 2 semaines, la prison de Wallam et le camp de réfugiés maliens de Mangézé avaient subi des attaques presque simultanées qui avaient fait une dizaine de morts. Avant-hier, mercredi, à Bani Bangou, à 250 km à l'ouest de Niamey, au moins un militaire nigérien a été tué. Cette attaque a été revendiquée par le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, un des groupes armés qui avait pris contrôle du Nord malien entre 2012 et début 2013.
Un nouveau président sera élu lundi à la tête du Parlement du Niger pour remplacer Hama Amadou, un opposant en fuite en France après sa mise en cause dans un trafic international présumé de bébés. C'est ce qu'a indiqué vendredi une source parlementaire citée par l'AFP. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction nigérienne, a déclaré hier vacant le poste de M. Amadou qui a quitté le pays depuis bientôt 3 mois.
Un auteur présumé d'attentat s'est tué vendredi à Bourem, dans le nord du Mali, en manipulant sa bombe. Bourem s'est situé à quelques 95 km de Gao, la grande ville du nord malien. Le point avec Boubacar Touré à Gao.
C'est un jeune d'une vingtaine d'années de teint noir avec un sac d'écolier qui se fait exploser en plein cœur de la ville de Bourem dans la matinée de ce vendredi aux environs de 11h heure locale. Voici le témoignage d'un habitant de Bourem présent sur les lieux. Il a bien voulu garder l'anonymat.
Il est de teint noir et très moins âgé. Très moins âgé, on peut lui donner à peu près 20 ans ou 22 ans ou plus. L'explosion s'est passée juste aux abords de l'usine de phosphate. C'est à peu près à 50 mètres des écoles. Le bilan, c'est un mort, juste le kamikaze. Les forces armées ont aussitôt envahi les lieux, demandant à la population d'être sereine. Et évidemment que la population est très inquiète, très très inquiète. Là, je vous le dis, très inquiète.
Il faut le rappeler, c'est pour la première fois que les populations de Bourem vivent un tel drame. En tout cas, la guerre contre les terroristes au Mali est loin d'être gagnée. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Dans le nord du Nigeria, au moins 45 personnes sont mortes cette semaine après l'attaque d'un village dans l'état de Borno par des militants présumés de Boko Haram. Selon des habitants, les salafistes ont pris d'assaut le village d'Azayakura dans la région de Mafa en milieu de journée mercredi et ont attaqué les habitants et détruit des habitations. Ils ont emporté des denrées alimentaires, de la marchandise et du bétail. L'attaque a été confirmée par le président intérimaire du conseil de Mafa, Alhaji Lawa Chetima, et un chef du groupe d'autodéfense locale, Mohamed Gava.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola en RDC. L'épidémie dans la province d'Équateur, dans le nord-ouest, a tué au moins 49 personnes dans son communiqué de ce vendredi. L'OMS précise qu'aucun cas de virus n'a été détecté depuis 42 jours, soit deux fois la période d'incubation maximale.
Bousculade mortelle après un service religieux hier soir au Zimbabwe. Au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, selon un bilan établi par la police zimbabwéenne ce vendredi. Jacques Aristide.
Le drame est survenu dans un stade à Kwekwe, une ville minière dans le centre du Zimbabwe. Environ 30 000 fidèles y étaient réunis pour assister au service du prédicateur pentecôtiste Walter Magaya, d'après le commissaire adjoint de la province des Midlands. Shradek Mubaiwa a ajouté qu'à la fin du service, pratiquement toutes les personnes rassemblées dans le stade Mbizo s'étaient précipitées vers la seule sortie ouverte. 4 personnes ont été tuées sur le coup dans la gigantesque bousculade qui s'est ensuivie. 7 autres ont été déclarées mortes à l'hôpital où elles avaient été transportées après la tragédie. Des témoins ont accusé la police d'avoir obstrué la plupart des issues du stade et d'avoir lancé des gaz lacrymogènes sur la foule agitée au moment où tout le monde voulait sortir en même temps. Le commissaire adjoint Mubaiwa a rejeté en bloc ces accusations, précisant que le stade n'avait qu'une capacité d'accueil de 7000 places. Quant au pasteur Magaya, qui prétend pouvoir faire des miracles et guérir des gens, il a laissé entendre qu'il s'agissait du moment le plus triste de sa vie.
Selon l'agence de presse portugaise Lusa, des casques bleus angolais seront déployés en Centrafrique au cours du premier trimestre de 2015. L'agence cite une déclaration à Luanda du ministre de la Défense de l'Ouganda, João Lourenço, répondait aux questions des députés à l'Assemblée nationale ce vendredi. Dans le cadre d'une discussion sur le budget 2015, le ministre de la Défense a expliqué que la mission angolaise intégrera un bataillon d'infanterie motorisée et une compagnie de forces spéciales. João Lourenço a souligné qu'avant le départ de ses troupes, il y a des mesures qui doivent être discutées avec les Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Course contre la montre dans les négociations sur le nucléaire iranien. John Kerry, le secrétaire d'État américain, est à cheval entre Paris et Vienne pour des consultations. Il a eu des entretiens tôt ce matin avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. Les deux hommes comptent se revoir dans la perspective d'un accord global avant la date butoir fixée à lundi. Félix Yepassis Zembrou.
L'heure est au pessimisme sur la probabilité d'arriver avant lundi à un accord sur le nucléaire iranien. La presse iranienne a annoncé que Mohammad Javad Zarif retournait à Téhéran pour des consultations avec sa hiérarchie. Mais son entourage a fait savoir que les discussions autour des idées présentées par la partie iranienne n'étaient pas arrivées au point où elles pouvaient être présentées. La date butoir pour ces négociations, fixée au 23 novembre, pourrait être prolongée. Mais le chef de la diplomatie américaine a fait savoir que cela n'est pas à l'ordre du jour. L'Iran est 6 puissances mondiales. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, Chine, France, Russie et l'Allemagne sont en discussion depuis un an au sujet d'un accord qui réduirait sa capacité d'enrichissement d'uranium en échange d'un assouplissement des sanctions qui lui sont infligées. Les États-Unis et leurs alliés sont convaincus que l'Iran essaie de construire une bombe nucléaire, mais Téhéran a toujours nié que ce programme ait des visées militaires.
Crise ukrainienne, le vice-président américain a condamné aujourd'hui ce qu'il a appelé l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Joe Biden était à Kiev, où il a rencontré le président Petro Porochenko. Jean-Roger Billon.
Joe Biden dit avoir discuté avec M. Porochenko de la menace à la souveraineté et à l'intégrité territoriale ukrainienne posée par l'intervention militaire de la Russie, ajoutant qu'il est tout simplement inacceptable au XXIe siècle pour un pays de tenter de redessiner les frontières par la force. Pour le vice-président américain, les actions de la Russie sont une violation flagrante des principes fondamentaux des relations internationales. Moscou a nié à plusieurs reprises avoir armé les séparatistes dans l'est de l'Ukraine et qualifié les troupes russes combattantes aux côtés des rebelles de bénévoles. Joe Biden a rencontré les dirigeants de l'Ukraine dans le but de souligner le soutien de Washington à Kiev aux prises à une insurrection pro-russe. La visite du vice-président américain intervient en plein débat à Washington sur l'opportunité de fournir des armes à l'armée ukrainienne qui parfois a semblé fléchir devant la puissance de feu des rebelles.
Deux médicaments de nouvelle génération contre l'hépatite C produits par le laboratoire américain ABBV ont reçu un premier feu vert pour leur commercialisation en Europe. Annonce faite ce vendredi par l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Ce feu vert doit maintenant être formellement approuvé par la Commission européenne avant une commercialisation effective dans chaque État membre.
Nouveau coup dur pour les socialistes au pouvoir en France avec cette démission aujourd'hui de Kader Arif, un fidèle du président François Hollande. Il a été contraint de quitter le gouvernement sur fond d'affaires impliquant ses proches. Ce départ est le deuxième en moins de 3 mois de l'exécutif qui a été remanié fin août. Kader Arif, secrétaire d'État aux anciens combattants, n'occupait qu'un strapontin au gouvernement. Mais il était un fidèle du chef de l'État qu'il avait accompagné dans sa campagne pour conquérir l'Élysée en 2012.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants, dominée par les Républicains, a formellement porté plainte ce vendredi contre l'administration de Barack Obama, accusée d'avoir modifié unilatéralement la loi de réforme du système de santé dite Obamacare. La procédure devant la justice fédérale vise une réécriture jugée anticonstitutionnelle et illégale de certains volets de la loi par le département de la santé. Les Républicains ont également laissé entendre qu'ils pourraient contester devant la justice le plan annoncé jeudi par Barack Obama de régulariser des millions de sans-papiers.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est tout pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 13h41 ici à Washington. Au micro, Bagassi Koura et Nathalie Barge.
Moi qui dis.
Au Burkina Faso, partis politiques et sociétés civiles avaient jusqu'à ce soir pour déposer leur liste de candidats pour occuper les sièges au sein du CNTE, le Parlement provisoire qui sera fort de 90 membres. Mais depuis quelques jours, cette désignation ne se passe pas dans un climat serein. Il y a même eu des empoignades. Et pour en savoir davantage, j'ai joint à Ouagadougou Dieudonné Zungrana, directeur du quotidien Aujourd'hui au Faso.
La désignation des membres du CNT se passe tant bien que mal, mais avec des fortunes diverses sur l'opposition et sur la société civile. Parce que dans l'opposition, notamment à l'ex-Fox, chef de file de l'opposition, on peut avoir des discussions plus chaudes parce qu'il y avait 3 camps là-bas. Ceux qui voulaient qu'on reconduise les anciens députés de l'opposition, ceux qui voulaient qu'on fasse 50-50, moitié-moitié, c'est-à-dire moitié ancien député, moitié nouvelle tête. Et enfin, il y a un troisième groupe qui voulait qu'on fasse carrément des nouvelles têtes. Là-bas aussi, il y a eu quand même quelques bords chauds, mais finalement, ils sont parvenus aux dernières nouvelles à désigner leurs représentants.
Et comment est-ce qu'ils ont procédé?
Je pense qu'ils ont fait un dosage de ce que je sais, mais bon, on n'a pas encore la liste. Pourquoi qu'ils ont fait un mélange ancien député et puis nouvelle tête, je pense.
Et au niveau des organisations de la société civile, il semble que c'est plus chaotique là-bas.
Au niveau de la société civile, les employeurs alternent avec les discussions chaudes pour la désignation des membres devant siéger au CNT. Parce que justement, il y a bien sûr la rivalité entre les candidats. Il y a le mode opératoire, comment procéder à la désignation. Et il y a aussi le fait que certains sont sociétés civiles le jour et puis ils font partie du bureau politique de parti la nuit. Ça complique un peu la tâche et ça fait que depuis avant-hier, certains se sont prêtés mission, mais certains aussi sont arrivés à la désignation de leurs membres.
Et tout ça va jouer sur l'image même des organisations de la société civile. Et comment est-ce que le public réagit à cela?
Oui, il y a une grande déception du côté du public. Et finalement, la réserve que les populations avaient au niveau de l'armée commence à s'estomper parce que les gens se disent au moins qu'avec l'armée, les choses se règlent plus facilement, alors que sur la société civile, c'est compliqué. Et d'aucuns même disent que si on voulait que ce soit la société civile qui désigne le président civil, on n'en serait pas là.
Voilà, c'était donc le journaliste Dieudonné Zungrana, directeur du quotidien Aujourd'hui au Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Togo, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des militants de l'opposition qui avaient quitté le parcours autorisé pour leur manifestation afin de se diriger vers l'Assemblée nationale. Les manifestants exigent des réformes politiques, notamment une limitation du nombre de mandats présidentiels. Écoutez ce reportage de Kay Lawson à Lomé.
Deux couleurs ont teinté la ville de Lomé ce vendredi 21 novembre 2014. Il s'agit du blanc et de l'orange. Le blanc a été arboré par les partisans du président Fornia Singbe. Leur manifestation a pour but de lui apporter leur soutien. Raymond Kay Lawson de Souza, présidente de la Convention des femmes Union pour la République.
Nous avons fait une marche aujourd'hui, une marche que nous appelons la grande marche de soutien à la politique du président Faure et puis à sa politique de réforme. Puis le 28 novembre, nous serons toujours en marche derrière notre président de la République pour lui montrer que nous sommes là, nous sommes présents, nous l'aimons et nous sommes prêts à le suivre parce qu'il gouverne notre pays dans une paix sociale et il essaie de faire de son mieux, donc on ne peut que le soutenir.
Du côté des t-shirts orange, c'est-à-dire les militants et sympathisants du combat pour l'alternance politique en 2015, CAP 2015, la raison principale de leur manifestation est l'impératif des réformes, directement de CAP 2015.
Nous réclamons un climat paisible pour la population togolaise et nous réclamons surtout un cadre électoral transparent pour les élections à venir. En bref, nous réclamons des réformes institutionnelles, constitutionnelles, électorales avant les élections présidentielles de 2015. Demain, M. Fab, chef de file de l'opposition et candidat du CAP 2015, rencontre le président de la République pour discuter de ces questions. Donc il y a énormément d'initiatives qui ont été lancées pour faire en sorte que les réformes reviennent dans notre pays.
La marche des partisans du parti au pouvoir s'est faite de bout en bout sans incident, mais celle de l'opposition a été écourtée par les gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre ont eu recours à cette méthode pour empêcher les manifestants de rallier la place de l'indépendance, point de chute de la marche de l'opposition. Jusqu'en fin d'après-midi, des tirs sporadiques se faisaient entendre dans le quartier de Bay, réputé fief de l'opposition. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Direction le Tchad, avec ce bras de fer entre le gouvernement et la coalition Trop c'est trop, lancé cette semaine pour, selon ses promoteurs, dénoncer la mauvaise gouvernance et défendre les intérêts des Tchadiens. Et dans une communication hier, le premier ministre tchadien, Kalzebe Paimi Dede, a accusé les 15 organisations de la coalition de collusion avec les partis d'opposition.
Vous conviendrez avec moi qu'une société civile qui devient partisane et qui utilise une stratégie propre aux partis politiques dont l'objectif premier est de conquérir le pouvoir politique devient un risque vital pour le pays. Je relève donc à votre attention la lourde responsabilité qui est la vôtre dans toute collusion avec les partis politiques de l'opposition, susceptible d'engendrer le désordre et la violence. La constitution d'une coalition dénommée « Trop c'est trop » qui appelle à la mobilisation contre le gouvernement sur la base d'une lecture erronée ou délibérément tendancieuse de l'évolution de la situation sociale représente un réel danger pour la cohésion sociale et la stabilité du pays. Nous devons en effet apprendre à résoudre nos problèmes de façon institutionnelle plutôt que par le biais d'appels irresponsables à l'insurrection. Je vous invite donc à mettre un terme aux violences verbales qui suscitent des clivages et à vous garder de toute action susceptible de déclencher des situations dont nul gouvernement n'en tirerait de bénéfices.
Voilà, le Premier ministre tchadien Kaljebe Payimi Debe. Pour Banaji Boguel-Pyrus, rapporteur de la coalition Trop c'est trop, la communication du Premier ministre est une menace à l'endroit de toute la société civile tchadienne.
Notre intention, c'est de ne pas arracher le pouvoir ni renverser un régime quelconque. Mais nous sommes là pour faire des propositions au gouvernement pour pouvoir améliorer cette situation-là. Mais nous nous rendons compte, malheureusement, que nous ne sommes pas compris au point où nous soyons conviés à une rencontre où nous sommes soumis à des menaces, à un matraquage en lit et à une confusion de rôles. Nous n'avons jamais appartenu ou nous n'avons jamais joué le rôle d'un parti politique quelconque. Nous jouons notre rôle qui est celui d'éveil, notre rôle de dénonciation des cas de violation des droits de l'homme. Et nous allons nous inscrire dans cette logique-là. Nous aurions aimé que le Premier ministre nous convie à une rencontre où nous échangions sur ces différents problèmes soulevés au lieu de nous appeler et nous soumettre à ce matraquage. Ce n'est pas ces menaces qui vont ralentir notre élan de défendre et puis de dénoncer des cas de violation ou bien de dénoncer la mauvaise gouvernance.
Voilà, c'était Banaji Boguel-Pyrus, rapporteur de la coalition Trop c'est trop. Des extraits fournis par André Konma-Djingar de notre station partenaire FM Liberté à N'Djamena.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le président Barack Obama a présenté hier son projet de réforme sur l'immigration. Parmi les trois grandes mesures qu'il a annoncées, la plus radicale est celle qui empêchera temporairement l'expulsion de quelque 5 millions d'immigrants en situation irrégulière sur un total estimé à 11 millions. Pour une réaction, Timothée Donangmaya joint dans la banlieue de Washington en Virginie Cathy Wegg, une Sénégalaise ayant bénéficié il y a une dizaine d'années d'une réforme similaire.
Personnellement, je suis contente pour toutes les personnes que je connais de près ou de loin qui vont bénéficier de cette mesure qui va leur permettre de sortir de l'ombre, comme le président l'appelle. À mon niveau, j'ai déjà bénéficié de cette mesure probablement dans les années 2000. Et comme le président l'a dit, il est correct, plusieurs présidents ont eu l'opportunité de prendre cette mesure-là. Et ça permet aux gens d'éviter ou de ne plus se soucier du spectre de la déportation. Donc dans ce sens-là, oui, je suis contente. Ça n'a pas un effet direct dans ma vie aujourd'hui, mais pour toutes les personnes que je connais qui vivent dans l'ombre, qui ont peur de faire certaines activités pour eux-mêmes ou leurs enfants, je pense que ça va être très, 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 très positif.
Qu'est-ce que vous pouvez donner comme exemple de possibilité, de facilité que cette mesure offre à ces personnes en situation irrégulière?
Les gens auront le droit, après avoir rempli, je pense, les formulaires requis, de bénéficier d'une carte de travail. Donc, ils pourront, d'une façon très légitime, aller chercher un boulot qui rentre dans l'ordre de leur capacité, de leur rêve, une entreprise quelconque, alors que probablement, dans leur situation actuelle, ils prennent ce qu'ils peuvent. Et dans certaines circonstances, c'est une situation très déséquilibrée avec leur société ou là où ils travaillent. Donc, le fait d'avoir un permis de travail légitime, de payer les taxes, il y a un degré de légitimisation qui est très positif pour le moral d'une personne qui a l'intention de vivre aux États-Unis à long terme, qui dans certains cas, déjà vit ici depuis une dizaine d'années, quelquefois une vingtaine d'années. Donc, ça légitimise la présence d'une personne et c'est très, très positif.
Dans le même temps, et selon les activistes en faveur des droits des immigrants, beaucoup d'autres personnes en situation irrégulière seront toujours dans cette situation-là, ne verront pas leur situation améliorée par cette mesure.
Oui, c'est très possible. Les lois sur l'immigration sont très sophistiquées et chaque cas est relativement unique. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans ce process de légitimisation. Mais je pense qu'en gros, la plupart auront un moyen, au moins une petite voie qui pourront poursuivre à court terme.
C'était Cathy Wagé, une ressortissante sénégalaise de l'État de Virginie, limitrophe de Washington.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure de sport. Bonsoir Timothée Denamaï.
Et bonsoir Bagassi.
Voilà, vous savez, après chaque tournoi, il y a certains qui font les frais. Et cette fois-ci, c'est le tour de l'entraîneur de l'Égypte qui va donc payer l'élimination des pharaons dans leur quête d'une place à la CAN 2015 en Guinée équatoriale.
Et oui, Bagassi, la fédération égyptienne a en effet annoncé aujourd'hui le limogeage de Shawky Gharib. On se souvient qu'il avait succédé en fin 2013 à l'Américain Bob Bradley. Défait 2-1 en Tunisie mercredi en dernière journée des qualifications, les pharaons ont terminé en troisième position dans le groupe G derrière la Tunisie et le Sénégal, deux pays qualifiés. Malgré ses 7 titres continentaux, l'Égypte enregistre ainsi son 3e échec consécutif en qualification pour la CAN après ceux de 2012 et 2013.
Et bonne nouvelle pour Zizou, Zinedine Zidane, l'ancien bleu peut à nouveau entraîner l'équipe réserve du Real Madrid.
Le tribunal administratif du sport espagnol a annulé aujourd'hui la suspension de 3 mois infligée à Zidane par la Fédération espagnole de football au motif qu'il n'avait pas le diplôme requis et que son collègue Santiago Sanchez lui servait de prête-nom. Le tribunal avait suspendu la sanction en attendant de se prononcer sur le fond, ce qu'il a fait aujourd'hui.
Et un mot de tennis avec la finale de la Coupe Davis qui oppose la Suisse à la France à Lille.
Le Suisse Stanislas Wawrinka a donné l'avantage à son pays en battant le Français Joe Wilfried Tsonga par 3-7-1. L'autre match en simple de cette finale met aux prises le Suisse Roger Federer et le Français Gaël Monfils. Plus de 27 000 personnes assistent à cette finale.
Et pour terminer, on revient ici aux États-Unis pour donner quelques résultats de basketball, le championnat donc de la NBA.
Et oui, Bagassi, les Clippers de Los Angeles ont battu hier soir 110-93 le Heat de Miami privé de Dwayne Wade blessé. C'était la 3e défaite consécutive du club floridien sur son parquet. Défaite également pour les Bulls de Chicago, battus 103-88 par les Kings de Sacramento qui jouaient devant leur public.
Voilà, parlant des hits, il faut dire qu'il y a un prix à payer quand on se défait
de LeBron James
qui est maintenant dans l'Ohio.
Voilà.
Merci beaucoup Timothée Donangmaï et Bagassi Koura pour ces sports. Et à présent, la page musicale avec Rihanna. Rihanna, une vraie star du monde moderne qui a vendu plus de 150 millions de disques dans le monde, faisant d'elle l'une des artistes les plus vendues de tous les temps.
Baby, when we first met, I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend, all wrapped in one with a ribbon on it. And all of a sudden, you went there. I didn't know how to follow. It's like a shot that's spumming around, and now my heart's dead. I feel so empty and hollow. And I never give myself to another the way I gave it to you.
Vous vous écoutez la star Rihanna, de son vrai nom Robin Rihanna Fenty. Elle est née le 20 février 88. Elle est aussi actrice et styliste de mode. Bien sûr, elle accumule les récompenses. En 2012, Forbes l'a classée 4e célébrité la plus puissante de l'année avec un revenu de 53 millions de dollars dans l'année. Time l'a considérée dans son classement comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Et sachez qu'en juin dernier, Rihanna a reçu le prix Fashion Icon Lifetime Achievement du Conseil des créateurs de mode d'Amérique.
Donc c'est avec Rihanna qui va prendre fin cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Nathalie Barge et moi-même Bagassi Koura, à la mise en onde de Michel Joseph. Passez un excellent week-end à l'écoute de la Voix de l'Amérique.